Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunet, lit de France Bleu RCFM à Ajaccio, en Corse. Et en direct de la capitale tunisienne, Mayada Sili de Radio Tunis, chaîne internationale. Bonjour Mayada.
Bonjour Thomas, bonjour la Méditerranée, heureuse de te retrouver et de retrouver nos auditeurs pour un nouveau numéro spécial de Cantara.
Absolument Mayada, tu nous présentes le sommaire de ce numéro spécial, un spécial environnement comme on fait quasiment tous les mois.
Au Maroc, la ville de Meknès abrite la 12e édition du Salon international de l'agriculture. Le thème cette année, la sécurité alimentaire au fil de l'eau et la gestion durable des ressources naturelles. En Tunisie, le parc national de l'Ishkel est l'une des réserves les plus visitées. Je vous propose une promenade au bord du lac et une visite de l'écomusée avec Emna Sharfi, une spécialiste de l'aménagement des espaces naturels. En Égypte, une dizaine de tonnes de déchets jonchent chaque jour les trottoirs du Caire. Pour régler cette situation insupportable, des kiosques à déchets ont été installés. Le but est d'inciter les 22 millions de Cairotes à trier leurs ordures.
En Espagne, la RTVE coproduit le nouveau documentaire de Joaquim Guitérez Acha qui s'intitule Cantábrico. Dans ce film, un ours brun, un ours ibérique, des mouflons, des faisans, mais aussi des chênes et des marronniers en sont les personnages principaux. L'environnement, c'est aussi la défense et la protection du patrimoine bâti. À Bastia, en Corse, l'association de défense de la citadelle, lieu historique de la ville, se bat pour empêcher un projet de surélévation du lycée maritime.
Et on rappelle, Thomas, que Cantara est le fruit d'une large coopération avec Alger Chaîne 3, Linda Boadma, France Bleu RCFM, Pierre-Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri, Chaîne Inter Rabat, Nadir Aboulkhoutout et Mohamed Chafui, Radio Tunis, Chaîne Internationale, moi-même et Eda Sili, Radio Le Caire, Dina Abdelmajid et Radio Extérieur d'Espagne, Imen Wenzar. Notre première chanson est marocaine. Il s'agit de l'artiste Dwizi qui interprète Mouja, la vague.
يا اللي غايب حس بقلبي اللي دايب طالب فيك وراغب وانت مبعد وناسيني بيني وبينك جبال وحبي ليك مازال عندي ليك سؤال لمن غادي ومخليني الشوق ليك هاج داني لك فوق راسي تاج وانت مخلي دموعي نازلة بحار وسولت عليك الموجة قالت لي حبيبك باقي مجال يا احسن عوانك غير الصبر الشوق ليك هاش دايرك فوق راسي تاش وانت مخلي دموعي نازلة بحار سولت عليك الموجة قالت لي حبيبك باقي مجال يا احسن عوانك غير الصبر
ياللي ناسي عمري ما نويتك قاسي خداني فيك احساسي كنت غافل ودرت نيا ننساك ما قادر وعلى بعدك ما صابر فراقك جاني واعر.
Nous étions au Maroc avec Dwizi et nous y restons avec le sujet que nous a concocté Nadira Belkhoutout, Mayada.
La ville de Meknès abrite jusqu'au 23 avril la 12e édition du Salon international de l'agriculture. Des agriculteurs marocains, africains, italiens, français ou espagnols participent à des assises placées cette année sous le thème de la sécurité alimentaire au fil de l'eau. Ce salon est l'occasion pour les professionnels d'échanger leurs expériences en matière de gestion durable des ressources naturelles. Nadira Belkhoutout.
Monsieur Lasserie, vous êtes président du groupe Éléphant Vert. Cette édition, la 12e du Salon international de l'agriculture, se tient sous le thème « La sécurité alimentaire au fil de l'eau ». Est-ce que les participants qui assistent à cette édition sont suffisamment conscients et sensibilisés par rapport à l'importance de la gestion de l'eau ?
Nous estimons que les sols peuvent être très consommateurs d'eau quand ils sont déséquilibrés. Notre positionnement même est un retour à l'équilibre du sol et à la fertilité. Et puis la deuxième raison, c'est que nous travaillons, bien entendu, à partir du Maroc. Le groupe Éléphant Vert a compris depuis longtemps l'intérêt de la collaboration Sud-Sud et a vu sa naissance au Maroc, en l'occurrence sur l'agropolis de Meknès. Donc le groupe comporte plusieurs sociétés dans différentes spécialités, mais principalement les intrants agricoles durables et biologiques.
Cette édition se tient après la COP22 qui a été organisée à Marrakech. Est-ce que les agriculteurs marocains sont informés des décisions et recommandations qui ont été prises lors de la COP22 et est-ce que cela s'impacte sur les moyens qu'ils utilisent actuellement pour la préservation de l'eau ?
Alors, c'est une thématique qui est dans l'air du temps puisqu'elle fait suite à la COP22 organisée récemment par le Royaume du Maroc. Et puis le Maroc, bien entendu, il est précurseur dans tout ce qui est gestion et management des ressources hydriques, en l'occurrence la politique des barrages initiée par Sa Majesté le défunt Hassan II et puis continuée par notre roi Mohamed VI. Mais bien entendu, nous sommes également précurseurs dans le goutte-à-goutte. Alors le goutte-à-goutte, très important puisqu'il est fortement subventionné et impulsé par la politique du plan Maroc vert. Et la dernière en date, c'est qu'aujourd'hui, nous transformons l'énergie fossile en énergie solaire dans tout ce qui est pompage d'eau dans beaucoup d'établissements ou de fermes au Maroc, ce qui est également un phénomène précurseur en termes de gestion d'énergie et d'agriculture durable. Donc nous attendons également, au cours du SIAM, de discuter bien entendu l'intérêt de la fertilité du sol et le rôle des sols dans la gestion hydrique, dans la gestion de l'eau, et donc ce qui rejoint parfaitement la sécurité alimentaire. Pourquoi sécurité alimentaire ? Parce que certains pays africains comme le Nigeria, dans les 10 prochaines années, seront en termes de têtes d'habitants, passeront deuxième au niveau mondial. Par exemple, le Nigeria dépassera largement le milliard de têtes d'habitants. L'Afrique comme continent sera fort probablement la deuxième en termes de population. Et du coup, le principal défi va être de nourrir la population africaine. Alors nous avons deux défis. Premièrement, la sécheresse et le défi de la gestion hydrique. Et deuxièmement, la productivité des sols. Et donc nous attendons de ces assises d'adresser ces thématiques de façon bien sûr technique, mais également en termes d'investissement et en termes politiques, de façon à trouver des solutions communes sud-sud.
Nous étions au Salon international de l'agriculture à Meknès avec Nadira Belkhoutout et ses invités. Donc il faut dire aussi que c'est vrai, dans la COP22, il y a eu des engagements de prix et des rendez-vous aussi de prix, on verra bien par la suite. Mais parmi ces engagements, il y a le soutien aux populations vulnérables. Et c'est vrai, quand on parle de sécurité alimentaire, il faudra nourrir la population africaine qui est en train de croître chaque année. Et c'est vrai, ça va être quand même une priorité parce qu'on sait qu'il y a de nombreux pays en Afrique et partout dans le monde qui souffrent de la famine et aussi de la soif, du manque d'eau. Et c'est vrai que le fait d'en parler dans un salon de l'agriculture, où ce sont les premiers acteurs, les agriculteurs finalement, de la production de notre terre, je crois que c'est une bonne chose de sensibiliser cette profession.
Absolument, c'est une très bonne chose. Il faut en parler, non pas uniquement dans les salons, il faut que ce soit aussi, je pense, une priorité pour les gouvernements un peu partout dans le monde, parce que, comme tu le dis, la famine, elle sévit un peu partout aujourd'hui dans le monde. Il y a 800 millions de personnes qui souffrent encore de la faim, et je pense que c'est injuste quand même quand on sait que ceux qui nourrissent le monde sont essentiellement eux qui souffrent de la faim et de la malnutrition. Donc aujourd'hui, le monde est appelé à une rationalisation de l'exploitation des richesses, à une répartition un peu plus équitable, peut-être aussi des revenus de l'agriculture.
Et c'est vrai que le Maroc fait son boulot avec le roi Mohamed VI, notamment on parle de la grande centrale de Ouarzazate, qui est centrale solaire, qui est quand même l'une des plus importantes du monde. On voit donc qu'il y a une politique des débarrages et surtout des financements du goutte à goutte ou de l'énergie solaire pour les agriculteurs. Voilà, c'est ça, il faut aider. Il faut aider les professions justement à entrer dans cette logique-là du développement durable pour que ça devienne une habitude et soit plus des projets, mais du concret. Je crois que quand on parle de goutte à goutte, ça peut faire rire, mais ça fait des économies énormes pour les pays et pour certaines régions du monde qui n'ont pratiquement pas d'eau. Voilà, et après le Maroc, on vient chez toi, Mayada. On vient en Tunisie, d'abord en chanson.
En chanson et en poésie, en fait, c'est un peu un pont, je dirais, entre la Tunisie et la Palestine, puisque c'est un texte d'un grand poète palestinien, Mahmoud Darwish, Ala Hadhi al-Ard. Alors, je traduis, il y a sur cette terre ce qui mérite d'être vécu, nous dit Mahmoud Darwish, les hésitations d'avril, l'odeur du pain à l'aube, le début d'un amour. Je vous laisse l'écouter, cette chanson, interprétée par une chanteuse tunisienne qui s'appelle Lobna Normen.
Vous écoutez Kantara, spécial environnement.
La poésie avec ce poème du palestinien Mahmoud Darwish. Et puis, on reste en Tunisie pour une petite balade, une belle balade bucolique. On va aller traverser le parc national de Lishkel. C'est un parc qui a été créé en 1980 et c'est l'une des réserves les plus visitées en Tunisie. Ce parc est formé du lac Lishkel, de marais et d'un massif montagneux. Le parcours de visite comprend aussi un petit écomusée où toutes les espèces animales du parc sont présentées, ainsi que les enjeux écologiques de la réserve. Après plusieurs mois de travaux, cet écomusée a rouvert ses portes au public. Donc Mayada, tu y étais, tu as interviewé la responsable du chantier, Emma Sharfi, qui est designer, muséographe et spécialiste de l'aménagement des espaces naturels. On l'écoute.
Lishkel est une zone humide d'importance internationale pour les oiseaux migrateurs. Elle accueille jusqu'à 200 000 canards et oiseaux migrateurs d'eau pendant l'hiver, ce qui fait de ce site un site très important. Ce site accueille aussi un public intéressé par le milieu naturel, par la randonnée, par l'observation des oiseaux et on arrive jusqu'à 50 000 visiteurs par an. Ce nombre donc de visiteurs visite l'écomusée et aujourd'hui on est à l'écomusée de Lishkel pour sa nouvelle ouverture après la rénovation.
Juste pour revenir aux particularités de Lishkel, on dit qu'il a un système hydrologique particulier et peut-être unique au Mans. Donc, en quoi consiste justement la particularité de ce système hydrologique ?
Le lac de l'Ischgl est un lac qui vit deux saisons importantes par l'hydrologie. La saison de l'hiver, qui est marquée par une alimentation importante en eau douce, des ouèdes et des cours d'eau qui déversent tout le trop-plein dans le lac, ce qui alimente ce lac en eau douce, et l'hiver, ça devient une mer d'eau douce. Et c'est ce qui fait sa richesse, donc l'eau douce va attirer tous les canards et les oiseaux d'eau. Et donc, ce lac, il est relié à la mer Méditerranée par un canal. Et c'est le canal de Tinja. Donc le canal de Tinja relie le lac de l'Ischgl au lac de Bizerte. Le lac de Bizerte, c'est un lac d'eau salée, il est alimenté par la mer. Et donc pendant l'été, quand les eaux douces seront un peu au plus bas parce qu'il y a assèchement, donc il y a le phénomène inverse et le lac est alimenté par l'eau salée. Et donc le lac devient salé en été et donc sa salinité va augmenter et va changer tout l'écosystème.
Ce système est vraiment unique au monde ?
Je ne sais vraiment pas, je ne suis pas biologiste, mais il est vraiment rare et d'importance. Mais malheureusement, il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a des barrages, le lac n'est plus alimenté comme naturellement et comme avant. Et donc, cet écosystème est fragile et cette alternance, parfois pendant l'hiver, il est salé. Et donc, ça cause beaucoup de problèmes sur l'écosystème.
Très bien, alors revenons à l'écomusée. Il a été rénové pour répondre à plus de modernité.
Ce musée a été créé en 89 aujourd'hui. Aujourd'hui, il a 27 ans et donc c'est une nécessité de le rénover, de répondre aux besoins des visiteurs qui sont de plus en plus nombreux. Ce musée rentre un peu dans le cadre des visites scolaires, ce qui est très intéressant. Tous les jours, il y a des visites organisées par les écoles, par les lycées, par les chercheurs et il a été important et nécessaire de le rénover. Rénover dans la qualité de l'exposition, rénover dans aussi, il fallait un peu mettre à jour les informations, c'est un milieu vivant, il a bougé, la nature bouge, il y a beaucoup de paramètres qui font que les informations exposées depuis 27 ans ne sont pas toujours d'actualité, il fallait vraiment mettre à jour les photos, les infos, les tout, voilà. Donc aussi, bon, on a essayé de faire un peu d'interactivité pour intéresser le public et insérer, introduire des thèmes qui n'étaient pas traités dans l'exposition d'origine. Par exemple, toute la partie sur les grottes et les chauves-souris n'était pas traitée. On a essayé un peu de valoriser les grottes de l'Ischgl, leur importance par rapport aux chauves-souris et surtout essayer de mettre des messages pour la conservation, c'est le plus important. Ce musée a un rôle de sensibilisation essentiellement, plus l'information, mais nous souhaitons que le public qui vient ici aussi sort avec un message pour la conservation et la préservation de ce site.
Voilà, nous étions au milieu des canards et des oiseaux migrateurs dans ce beau parc national d'Ischgl. C'est un endroit incontournable pour les jeunes, pour les familles, pour se promener, Mayada.
Absolument, il y a même des excursions qui sont pratiquement tous les ans programmées dans les écoles publiques et dans les écoles primaires. C'est un endroit incontournable effectivement pour les Tunisiens, en tout cas ceux qui sont plutôt dans le nord. Mais je pense que c'est important en fait qu'aujourd'hui les écomusées se renouvellent pour que ça soit un peu plus attractif, pour répondre un peu plus aux attentes des visiteurs, des nouvelles pratiques de visite, etc.
Et puis Mayada, il y a quelque chose quand même qui est extraordinaire, c'est que c'est la première fois que j'entends ça, c'est que ce lac, en hiver, c'est de l'eau douce et en été, c'est de l'eau salée. Alors là, j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais visité de lac qui se transforme comme ça entre les saisons. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire et d'unique, peut-être.
Absolument. En tout cas, les experts disent que c'est vraiment unique. Enfin, l'alternance de l'eau douce et l'eau de mer, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et ça fait aussi la particularité de cette région, tout comme le massif montagneux qui est aussi un peu particulier. Donc, le lac en soi, en tout cas, il a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est assez particulier. Il est très, très beau à voir aussi. Je pense que c'est... Voilà, c'est à visiter.
Ben on va y aller. Et puis on a 50 000 visiteurs par an, on peut faire mieux. Hein. Donc, si oui. Les auditeurs de Kantara, allez-y, n'hésitez pas. Où est-il situé géographiquement, Mayada ?
À Bizerte, en fait, à quelques kilomètres de Tunis, et entre Tunis et Bizerte.
Très bien, ben voilà, vous avez une petite idée de sortie, eh bien emmenez vos enfants visiter ce parc, ce sera bien pour la santé et aussi pour apprendre un peu à respecter la nature. Donc après la Tunisie, on va aller en Égypte, mais d'abord en chanson, Mayada.
Une chanson interprétée par Mohamed Hamei, Wahda Wahda.
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
Allah ba Allah, khbata dili, yalli khatifni yarit. على كده بقى دلي بالملي اللي انا عشت احلم بيه بالنوم والليلة اخدتني على نشمي وكنت راضي دحنا يا دوب بنقول يا هادي هما لو فات شهر هيحصل ايه طب واحدة واحدة وبلاش كل ده يجي مرة
La chanson choisie par Dina Abdelmajid, on va rester en Égypte. Une dizaine de tonnes de déchets jonchent chaque jour les trottoirs de la capitale égyptienne. Pour réduire la quantité d'ordures ménagères dans cette mégapole de 22 millions d'habitants, le gouverneur du Caire a eu l'idée de créer ces kiosques à déchets qui achètent les déchets ménagers. L'initiative vise à encourager les citoyens à trier eux-mêmes leurs déchets et à mettre fin à l'entassement des ordures. Explication de Dina Abdelmajid.
Le Caire lance une opération ville propre. Canettes, conserves, bouteilles, tout peut se recycler. Et tout a un prix. Aluminium, fer, cuivre, à chaque métal son prix. 1 kg d'aluminium rapporte à l'usager 9 livres égyptiennes. Le kilo de plastique à 3 livres et celui de papier à 80 piastres. Même si les tarifs ne sont pas très élevés, l'initiative connaît un grand succès. Les gens sont payés immédiatement et voient tout de suite le montant s'afficher sur la balance. Dans une initiative visant à réduire la prolifération des ordures dans l'espace public, le gouverneur du Caire a eu l'idée de créer deux kiosques qui achètent les déchets ménagers au Caire. La gestion de ces kiosques a été confiée à des ONG sous la surveillance du gouvernorat. Pour faciliter la tâche aux citoyens, le gouverneur a annoncé que des camions parcourront le quartier d'Héliopolis chaque jour pour acheter aux citoyens et aux magasins leurs déchets triés. Racheter ces déchets et les recycler est un programme ambitieux Cela contribuera au nettoyage et à l'embellissement de la capitale. Outre les aspects environnementaux, le recyclage a également une grande importance dans le développement d'une économie verte, qui peut avoir des effets directs sur la croissance économique et la création d'emplois. L'Égypte utilise plus de 2 millions de tonnes de matières plastiques, dont 80% est importé, ce qui représente une somme colossale sur les industriels. Selon des chiffres officiels, 55 000 tonnes de déchets sont produites chaque jour dans le pays. Or, le succès de cette expérience a suscité la colère des éboueurs lorsqu'ils ont vu le grand afflux du public à vendre les déchets au kiosque, notamment les déchets en plastique et en métal, au moment où il ne restait que les déchets organiques et les résidus de nourriture à donner aux éboueurs. 3 millions d'éboueurs se sentent affectés. Le président du syndicat des éboueurs a souligné que ce projet affecterait négativement le travail de 3 millions d'éboueurs du pays. De son côté, le gouvernement a rassuré que le projet était ouvert à tous les éboueurs d'Égypte et d'affirmer appuyer des éboueurs et leur trouver une solution. Le but n'est pas de se substituer au service municipal de ramassage des ordures, mais plutôt de faire un complément et de responsabiliser les habitants. Les Égyptiens n'ont pas encore l'habitude de trier leurs déchets et beaucoup d'entre eux ignorent l'importance de la rentabilité de ce tri en amont. Le rôle des ONG, du gouvernement et des médias sera désormais de sensibiliser la population à l'importance d'une économie verte. Face au succès du premier kiosque, la ville envisage d'en ouvrir prochainement de nouveaux.
Le Caire, ville propre, c'est l'objectif, mais il y a du travail. 22 millions d'habitants et des tonnes d'ordures chaque jour dans les rues de la belle ville du Caire. C'est vrai que d'inciter les populations, les gens à trier, il faut avoir ce geste, ce réflexe citoyen de trier ses ordures, de trier ses déchets. Donc le premier intérêt pour les gens aujourd'hui, c'est de vendre leurs déchets. C'est peut-être un commerce aussi, mais après, oui, il faut que doucement tout le monde ait ce réflexe citoyen et qu'en bout de chaîne, bien entendu, on trie véritablement ses déchets. Je crois que c'est la solution et l'unique solution pour éviter que toutes ces villes, ces belles villes méditerranéennes ou autres ne soient envahies par les ordures.
Absolument, c'est vraiment la solution et peut-être, comme tu le dis, oui Thomas, l'unique solution. Et cette initiative, en tout cas du gouvernorat du Caire, je crois que c'est une belle initiative qu'on pourrait dupliquer, hein, pourquoi pas. La problématique de la gestion des déchets est vraiment importante, je dirais, partout, pas uniquement au Caire. Et peut-être que parmi les solutions, il y a aussi le secteur privé, hein. C'est vrai qu'on en parle aussi de plus en plus ces dernières années, confier à quelques acteurs privés tout ou peut-être une partie des compétences du service public de gestion de déchets, ça serait peut-être aussi une solution à ce problème d'entassement des ordures, surtout dans les grandes villes et dans les zones touristiques, par exemple. Et je dirais que l'organisation institutionnelle, déjà, elle est assez complexe. Donc, il y a plusieurs structures qui reviennent au ministère et du coup, parfois, le citoyen ne sait plus vers qui se tourner. Donc, d'un côté, il y a les ONG qui tirent la sonnette d'alarme et qui font ce qu'ils peuvent aussi, parce que les ONG, ils ont des moyens limités. Puis de l'autre côté, il y a les citoyens qui se trouvent parfois seuls responsables de la propreté des lieux où ils habitent. Et puis bon.
Non, mais il y a un problème qui vient s'ajouter au Caire, c'est qu'il y a les fameux chiffonniers du Caire, hein, qui sont là depuis des siècles. On en a parlé déjà dans Kantara, qui eux gèrent à leur manière les déchets ménagers et qui là maintenant vont être privés un peu de matières premières. Là aussi, on l'entend dans le reportage. C'est quand même aussi une question économique à régler.
Oui. Absolument, oui. Et puis je pense qu'il y a toujours aussi des textes juridiques qui doivent être efficients, hein, pour résoudre ce problème aussi de gestion. À mon avis, il ne suffit pas d'avoir un arsenal juridique développé. Il faut que la loi soit appliquée contre tous ceux qui portent atteinte à l'environnement, hein, qui soit.
Allez, on va aller en Espagne, mais avant d'y aller en reportage, on va écouter une chanson. Alors, cette chanson, elle est française, hein, d'un auteur-compositeur très très connu, Georges Brassens, qui est interprété par Paco Ibáñez, et c'est La Mala Reputación.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe.
todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
La mala réputation, chantée par Paco Ibáñez, une chanson bien entendu de Georges Brassens. En Espagne, on y reste. Pour être protégée, la nature doit être connue. Et c'est pour cela que des documentaires sur les sujets ayant trait à l'environnement sont essentiels. La RTVE a participé à la production du nouveau film documentaire de Joaquim Guterres Acha, Cantabrico. Un film documentaire avec l'ours brun comme personnage central, mais aussi les loups ibériques, les mouflons, les faisans, les papillons fourmiliers et les légendes des bois et des brumes mystérieuses. On reconnaît bien l'écriture là, et la prose de Iman Wenzar. Alors auparavant, Joaquim Guterres Acha a signé Guadalquivir, la faune, la flore et l'homme des rives du grand fleuve andalou. Donc promenade bucolique avec Iman Wenzar autour de ce documentaire.
Dans les bois profonds, touffus de Cantabrie, Joaquim Gutiérrez Acha a choisi de prendre pour guide l'ours brun pour son nouveau film documentaire Cantabrico. Le film documentaire coproduit par la radio-télévision espagnole a en effet pour acteur principal l'ours brun des Pyrénées.
Nosotros el subtítulo, digamos, un poco de la película son los dominios del oso pardo. Entonces, claramente el oso pardo, que es el carnívoro más grande del hemisferio norte, es un animal espectacular, es del tamaño de una furgoneta, ¿no? Un animal terriblemente grande y es un gran carnívoro, ¿no? Este, por supuesto, es el protagonista.
Le sous-titre le dit bien, les domaines de l'ours brun. C'est le carnivore le plus grand de l'hémisphère nord. C'est un animal spectaculaire, de la taille d'une fourgonnette. C'est un animal terriblement grand, un grand carnivore. C'est bien le protagoniste. Mais les acteurs secondaires ne sont pas en reste. Connaissez-vous le papillon fourmilier ? Un papillon qui vampirise littéralement les fourmilières. Le pic-vert noir du nord de l'Espagne. Le loup ibérique, au moins aussi fascinant et décrié que l'ours.
Esta es la banda sonora de un relato que empezó hace decenas de miles de años. Días fríos y transparentes, buenos para la caza. Los días del lobo.
Ceci est la bande sonore d'un récit qui a commencé il y a des dizaines de milliers d'années. Jour froid et transparent, bon pour la chasse, les jours du loup. La cordillère du nord de l'Espagne s'étend sur 400 kilomètres et se dresse comme une barrière face à la mer. Sur ses versants, des bois d'hêtres, de chênes, de marronniers, d'épaisses brumes, des sources.
Los faisanes de los montes cantábricos, miembros de un linaje diferente al de la mayor parte de los urogallos europeos, son los únicos que pueden considerarse globalmente amenazados y se encuentran en un preocupante riesgo de extinción. Quedan apenas 2 centenares de machos y otras tantas gallinas. En los últimos 20 años su número se ha reducido a menos de la mitad, mientras su área de distribución se ha encogido y fragmentado en 2 núcleos separados.
Les faisans des monts de Cantabrie sont d'un lignage différent de celui de la majeure partie des coqs de bruyère européens. Ils sont les seuls qui peuvent être considérés globalement menacés et qui se trouvent dans un préoccupant risque de disparition. Il reste à peine 200 spécimens de mâles et à peu près le même nombre de femelles. Au cours des 20 dernières années, leur nombre s'est réduit de plus de la moitié, alors que leur territoire s'est réduit et fragmenté en 2 aires différentes, séparées. Pour faire Cantabrico, ont convergé 2 savoir-faire, celui du cinéaste Joaquín Gutiérrez Acha et du producteur José María Morales, un ex-collaborateur de Jacques Perrin. Les deux ont déjà commis ensemble Guadalquivir et Entre Lobos, entre les loups. Les deux pensent fermement qu'un autre moyen de préserver la nature est de la faire connaître. La filmer, c'est aussi en acter la fragilité, acter les menaces qui la guettent, acter sa dégradation, mais aussi ses récupérations, sa ténacité. Mais faire des documentaires comme Cantabrico ou encore comme Océan du français Jacques Perrin coûte cher, mobilise de grandes équipes et de ce fait se font rares.
Voilà, c'était le reportage de Iman Ouinzard avec même les bruits hein, de la forêt et de la nature. Oui. Alors, les documentaires animaliers, malheureusement, quand on en parle, c'est des documentaires qu'on regarde lorsqu'on n'arrive pas à dormir et qu'on allume la télé à 1h du matin, il y en a toujours. Mais en fait, ces documentaires sont importants, je dirais, dans l'éducation des jeunes. Et c'est vrai qu'il y a eu, par le passé, des gens qui ont fait des documentaires qui sont rester dans l'histoire de tous les pays. Je pense au commandant Cousteau qui nous a fait reconnaître la mer hein, et le fond sous-marin et qui nous a incité à préserver cette mer hein, et cette faune et cette flore. Plus loin dans le passé, il y a eu Christian Zuber qui était quelqu'un d'extraordinaire qui nous a fait connaître des endroits du monde comme les îles Galapagos ou Jacques Perrin avec ses magnifiques films. Un documentaire, c'est d'abord et surtout un outil pédagogique très 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 important pour les générations futures.
Absolument, ça permet de faire connaître, mais aussi de sensibiliser et de mettre le point sur les problèmes que rencontre surtout la nature. Donc faire connaître la nature, c'est aussi un moyen de la préserver, je suis tout à fait d'accord. Le cinéma a un rôle à jouer, certes, les médias aussi ont un rôle à jouer. Et c'est vrai que pour le cinéma, l'environnement occupe, je crois, la place la plus importante quand on parle de cinéma documentaire. Hein. Donc voilà, on attend de voir ce film, de voir cet ours brun et oui. Tous les autres personnages.
Le petit nounours brun de Iman Ouinzard. Voilà, après l'Espagne, on va aller en Corse. Et d'abord, on va faire un petit tour vers la montagne corse avec une chanson de Patrizia Catacega. Et son titre est tout simplement « Montagne ». Et ça veut dire « montagne ».
Io gli rispondo
переживания.
Écoutez Cantara, spécial environnement.
Et après cette belle chanson en Corse, on va rester en Corse. L'environnement, c'est aussi la défense et la protection du patrimoine bâti. Mais là, souvent, le combat paraît plus difficile. À Bastia, l'association de défense de la citadelle, lieu historique de la ville, se bat pour empêcher un projet de surélévation du lycée maritime. Un projet qui défigurerait définitivement les remparts de la cité. Mais un projet qui est approuvé par les autorités municipales, territoriales et le ministère de l'Environnement. Germaine de Zerbi, présidente de l'association de défense de la citadelle de Bastia, a décidé de ne pas baisser les bras. Pierre-Louis Alessandri l'a rencontré.
Nous déplorons qu'il y ait ce projet que nous trouvons aberrant parce que notre citadelle a 500 ans, qu'il y a des remparts qui ont été commencés au XVIe siècle, qu'elle a une harmonie et une beauté architecturale comme toutes les citadelles de Corse, toutes les citadelles génoises. Il y a déjà eu une détérioration du panorama, du paysage.
Il y a 50 ans, quand on a construit cette école, voilà, à l'endroit où elle est.
Il y a 50 ans, c'était pas très heureux, parce que de construire en bout de falaise sur des remparts historiques, de construire un établissement laïc qui dépare la citadelle, et tout le monde le reconnaît, tout le monde, des architectes aux politiques, tout le monde reconnaît que c'est une verrue. Et maintenant, au lieu donc le lycée doit rester à Bastia, certes, il doit s'agrandir, et bien profitons-en pour le mettre ailleurs, parce que là, nous défigurons définitivement la citadelle et ses remparts. Et ça a commencé, puisque avant même que le projet de surélévation ne se réalise, il y a un bâtiment qui a été agrandi, un bâtiment d'exercice pour lutter contre les incendies à bord des navires. Et ce petit bâtiment, qui est une surélévation innommable, est en part peint sur les remparts historiques. Il y a un chemin de ronde qui est condamné. Or, les citadelles de France et de Navarre et d'Italie et de Méditerranée sont des joyaux historiques qu'il faut préserver.
Alors, comment on peut expliquer que les autorités publiques défendent un projet de ce type et laisser faire ce que vous dites ?
Force est de constater que la conscience de la préservation du patrimoine architectural, la conscience de l'environnement n'y est pas. Il n'y est plus, a disparu depuis longtemps. Et là, dans l'indifférence générale, on a, au lieu de penser à transformer définitivement ce lieu en promenade, en panorama sur les îles de Méditerranée, sur l'archipel italien toscan, etc. Non, il n'y a pas de conscience de la beauté à préserver.
Alors c'est important ce que vous dites, parce que on est sensible à la défense de l'environnement, de la nature, on l'est moins finalement dans la préservation du patrimoine, de vieux quartiers, de vieilles villes. On va se battre pour la nature, mais pas pour le patrimoine bâti.
Exactement, c'est ça qui est étonnant. Des années de travail des associations de défense du littoral, la préservation de la flore, maintenant c'est acquis, les travaux, le parc régional, il y a eu de grands progrès. Et au niveau de l'architecture des villes, Bastia, la citadelle est un joyau, et on la laisse péricliter impunément, par indifférence.
Les mêmes personnes qui défendent la nature, souvent ne défendent pas le patrimoine. Comment on peut comprendre ça ?
C'est peut-être que l'état sauvage et la nature semblent constituer un capital précieux, alors que les constructions humaines, ici, on laisse péricliter un joyau.
Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, en conclusion, créer des réseaux d'associations en Méditerranée, par exemple, sur le pourtour, pour être un peu plus fort.
Et oui, même des réseaux locaux, même des réseaux locaux ne suscitent pas l'intérêt qu'ils devraient. Et dans 20 ou 30 ans, on s'apercevra sans doute trop tard qu'on a détruit des remparts qui ont 500 ans. Il est incompréhensible qu'on ne leur accorde pas plus de réflexion urbanistique. Bastia n'a pas de réflexion urbanistique digne de ce nom.
Nous étions sur les remparts de la citadelle de Bastia avec ce projet de surélévation du lycée maritime. C'est vrai qu'il faut des lycées maritimes, mais ce ne serait pas une mauvaise idée de le déménager et de le construire ailleurs, parce que la citadelle de Bastia, quand même, ça reste un joyau, comme de nombreuses citadelles dans toutes nos villes de Méditerranée. Et c'est vrai que c'est plus intéressant de les mettre en valeur plutôt que de les gâcher avec des constructions nouvelles.
C'est notre responsabilité, je pense, effectivement, envers les générations futures. La préservation de l'environnement et du patrimoine, c'est vraiment un enjeu mondial. Et on a connu ce genre de problème, surtout par rapport à quelques vestiges à Carthage. Mais je dirais, heureusement qu'il y a toujours les associations, comme cette association, effectivement, de défense de la citadelle de Bastia. Il y a toujours des associations pour faire pression. Et ça aussi, c'est le rôle de la société civile, quand même.
Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut regarder un peu l'actualité lorsqu'on voit, par exemple, les ruines de Palmyre en Syrie détruites par les islamistes de Daesh. Ça fait mal au cœur. C'est l'humanité qui en souffre. Hein, quand on voit aussi que le monastère de Sainte-Catherine dans le Sinaï est menacé aussi. Alors on se dit que si on peut sauver un petit bout de patrimoine dans nos villes, eh bien ce serait bien aussi pour rééquilibrer un peu les choses et que la folie des uns soit un peu gommée par la sagesse des autres.
Absolument.
Allez, on va écouter une chanson algérienne et puis ensuite, comme chaque semaine, notre agenda culturel. Comme chaque semaine, donc, et comme promis, notre agenda culturel, et on commence par le Maroc, où l'artiste peintre Mohamed Haad expose à la galerie d'art Souiri dans la ville de Essaouira ses tableaux qui transcendent les temps et l'espace. Le peintre est un autodidacte qui joue sur la lumière. Ses tableaux incarnent la nostalgie des figures spirituelles. Chaque toile, nous dit Nadira Belrotout, est une création qui ne ressemble à aucune autre.
Tabarka Sky Lanterne Festival Helma soufflera sa troisième bougie du 28 au 30 avril à la plage de Tabarka en Tunisie. Cet événement visera à sensibiliser un large public à trois enjeux majeurs: la paix, le multiculturalisme et l'environnement. Au programme, un bazar culturel, des shows de musique, des shows sportifs, le lancement de lanternes, des graffitis et street shows et plus encore.
C'est quoi le lancement de lanternes, Mayada? On va y concourir. Allez, le beach volley est de retour. Les sélections égyptiennes masculines et féminines de beach volley de moins de 21 ans terminent respectivement 3e et 2e de la Coupe d'Afrique et décrochent ainsi leur billet pour la Coupe du Monde prévue en Chine en juillet prochain. L'Afrique sera représentée par 5 nations qui ont remporté les 5 premières places de la Coupe d'Afrique. Chez les hommes, les 5 nations sont le Mozambique, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Congo. Et chez les femmes, les 5 nations sont le Mozambique toujours, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et toujours le Maroc.
Le livre est à l'honneur cette semaine à l'université d'Alcalá de Henares. La remise du prix Cervantes des lettres, le plus prestigieux prix des lettres hispaniques, à Eduardo Mendoza, des mains du roi Philippe VI, le 21, place à la nuit des livres avec des librairies ouvertes jusqu'à tard dans la nuit, des promotions, des ventes dédicaces et même la possibilité de décharger gratuitement des ouvrages historiques de certaines institutions comme le Musée Naval de Madrid. Le 23, jour international du livre et fête de Saint-Jordi en Catalogne, où la tradition veut que l'on offre un livre aux messieurs et une rose aux dames. Charmant mais vieillot, nous dit Imane, elle préfère les livres.
Bah, c'est à voir. Allez, Chêne et Sogno, le 17e Festival du Rêve, du 27 au 30 avril à Porto Vecchio, en Corse. Dès sa première édition, Chêne et Sogno s'est voulu le festival de la diversité de l'échange, montré au travers des spectacles inédits de grande qualité pour adultes et pour enfants, toute la richesse et toutes les facettes du spectacle vivant et des arts de la rue. Chaque année, une dizaine de compagnies du continent, d'Europe, de Corse, sont accueillies pendant une semaine. La plupart des spectacles se déroulent en extérieur et sont gratuits dans la grande tradition du théâtre de rue. Voilà, ce numéro de Kantara spécial environnement est en train de se terminer. Mais avant, Mayada, il faut le rappeler que Kantara est une coproduction.
Avec Radio Le Caire, Radio Extérieure d'Espagne, RCFM, chaîne Interrabat, Alger, chaîne 3 et Radio Tunis, chaîne internationale.
Ajaccio, ce Kantara a été réalisé par Stéphane Casalong.
Et à Tunis par Noël Essaidi.
Alors n'hésitez pas à consulter notre page Facebook pour écouter ou réécouter votre magazine. Voilà, c'est terminé. Au revoir. Au revoir Mayada. À la semaine prochaine.
Merci Thomas. Au revoir. À la semaine prochaine.